Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Cette semaine, notre invité est philosophe et romancier. Il publie un roman vrai sur sa vie avec 5 enfants. C'est dans un instant. Ensuite, nous lirons un roman culte, bien sûr, la première page de « Et au milieu coule une rivière » de Norman MacLean, adapté en film par Robert Redford avec Brad Pitt notamment, vous vous souvenez. Nous visiterons la bibliothèque du comédien Antoine Duléry, nous irons nous balader dans une librairie comme toujours, et ce grand enfant de Victor Dolande fermera la boutique avec son roman jeunesse. Mais d'abord donc, c'est l'invité, La Voix est libre, c'est parti, premier chapitre. Ce n'est pas tout à fait un roman, pas tout à fait un récit non plus. En tout cas, c'est de la littérature sur un sujet assez peu exploité par les écrivains. La paternité, naissance d'un père, chez Alary Éditions, c'est le nouveau livre d'Alexandre Lacroix, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, écrivain, romancier, cofondateur de l'école d'écriture Les Mots. Comme dirait Madeleine, ma fille de 4 ans, il a trop de métiers, il va être en retard. Bonjour Alexandre Lacroix.
Bonjour Nicolas.
J'aurais dû commencer par là, c'est le plus spectaculaire. Vous avez 5 enfants. Le oui. Premier, vous l'avez eu à 25 ans d'une première union, puis vous en avez eu 4 autres. Je précise que vous n'avez que 45 ans. Je l'ai dit, vous publiez beaucoup des romans, des essais. Pourquoi tout à coup vous êtes-vous emparé de ce sujet en particulier ?
Alors, j'écris toujours sur ce qui m'est proche. En fait, j'écris toujours sur mes obsessions, sur ce que je connais bien aussi. Je ne me projette pas dans des univers complètement imaginaires, complètement fictionnels. Et il se trouve que la paternité, c'est ce qui m'occupe une grande partie du temps, des week-ends, des vacances, du temps libre, du temps hors du travail, depuis que j'ai 25 ans, puisque c'est un saut incommensurable. Le fait d'avoir un enfant jeune, ça met fin tout d'un coup à l'insouciance des études. Ça vous propulse dans un univers de responsabilité, mais aussi d'attention et d'amour à un être qui grandit. Et en fait, j'ai tellement aimé être père à 25 ans que j'ai récidivé. Donc aujourd'hui, ils sont 5. La fourchette d'âge va de 3 à 20 ans. Et j'ai toujours su que je voulais écrire là-dessus, sur cette expérience qui est l'une des expériences les plus importantes. Vous savez, chacun a son expérience existentielle la plus importante. Pour moi, c'est peut-être la paternité. Mais pour commencer à écrire, il fallait que j'attende que le cycle soit clos, c'est-à-dire que le dernier enfant naisse. Et mon dernier enfant est né en 2017, et quand il avait six mois, j'ai commencé à écrire le roman.
Mais ça, vous ne pouviez pas le savoir, que vous en auriez 5.
Je ne le sais toujours pas, mais disons qu'il y a un consensus entre la mère et moi pour 5 enfants pour moi, 4 pour elle. C'est très bien, on est heureux et on a de quoi faire aussi.
Pardon pour la psychanalyse de comptoir, mais vous avez aussi une histoire terrible avec votre propre père. Est-ce que ça a influencé aussi cette volonté d'avoir 5 enfants ?
Complètement. C'est-à-dire que j'ai perdu mon père quand j'étais jeune, quand j'avais 11 ans, dans des circonstances assez dramatiques, puisqu'il a mis fin à ses jours. C'est moi qui l'ai découvert mort. Enfin, c'est quelque chose d'assez dur. Et ce deuil, c'est véritablement ce qui a coloré toute ma jeunesse. Ce deuil, et puis la figure de mon père, qui était une figure particulière, avec il portait en lui une forte mélancolie. Je viens d'une famille où la destruction était présente, où il y avait une forme de noirceur. Et dans ces cas-là, soit vous êtes un peu brisé ou vous plongez à votre tour dans la noirceur, soit vous décidez de projeter la famille et la vie devant vous. Hein, c'est-à-dire du côté de la descendance et pas de l'ascendance. Quand les ascendants sont brisés, vous pouvez imaginer une descendance, recréer un monde. Et pour moi, faire des enfants, c'était ça. Et quand, à 25 ans, j'ai eu mon premier fils, j'ai retrouvé la beauté, parce qu'il y avait une certaine beauté dans la relation avec mon père, j'ai retrouvé la même beauté de la relation. Alors évidemment, j'avais permuté. J'avais plus la position de l'enfant, j'avais celle du père. Et c'est ça que j'ai adoré, en fait. C'est-à-dire ce dont j'avais tellement manqué à cause du deuil, c'est-à-dire la relation père-fils, la filiation, ce qui m'avait fait défaut, tout d'un coup, je le retrouvais à la puissance seconde.
Mais on pourrait se dire que c'est de la matière littéraire assez banale, en fait, qui va manquer de péripéties, de parler de ces 5 enfants que vous avez eus dans des circonstances tout à fait normales, tranquilles, etc. Sauf que dans ce roman, vous réhabilitez d'une certaine manière le destin, la vie banale, en opposition aux aventures incroyables comme, je sais pas moi, gravir l'Everest ou traverser l'Amazonie. C'est ça, l'aventure ultime, c'est les enfants ?
Oui, je pense que ce qui fait la vie, vraiment la vie, ce ne sont pas les vacances, les treks dans l'Himalaya. Ce qui fait vraiment la vie, c'est une série de circonstances qu'on n'a pas choisies. Hein, c'est vraiment cette idée d'un destin, d'un amor fati, aimer le destin. On n'a pas choisi le lieu où l'on est né, on n'a pas choisi ses parents, on choisit finalement assez peu de choses. Ses enfants, on n'a qu'une faible maîtrise, on les met au monde, mais on n'a qu'une faible maîtrise sur ce qu'ils deviennent. Et donc vivre, c'est être livré un peu au hasard, au chaos de ce monde. Et effectivement, j'ai voulu dans le roman accepter cette vie ordinaire, mais cette vie ordinaire, je voulais aussi montrer qu'elle avait une dimension épique. En fait, c'est ça notre vie, notre épopée, notre aventure sur Terre. C'est pas de s'offrir de temps en temps un très beau voyage ou une parenthèse. C'est d'assumer nos contingences, nos faiblesses, nos maladies, et puis d'avancer avec.
Mais ça, c'est le discours de quelqu'un qui n'a plus vraiment le choix. Avec 5 enfants, effectivement, vous ne pouvez plus vous permettre d'aller traverser l'Amazonie ou le Sahara, comme ça, à moins de mal vous comporter.
Ah oui, vous y voyez un discours de consolation. Non, moi, je le vois autrement. J'avais quand même un vrai défi, en fait, dans l'écriture du roman. C'est que j'étais, en fait, vos objections, vos critiques, je les partage un peu. C'est-à-dire, je me suis dit, oulala, de quoi il s'agit finalement d'élever des enfants? Il s'agit de petits pots, de biberons, de réveil la nuit, de changement de couche, de pleurs nocturnes, de cauchemars qu'il faut consoler. Comment je vais faire un roman avec tout ça? Comment je vais rythmer ça? Et effectivement, j'ai trouvé des astuces. Je me suis beaucoup référé, en tout cas mentalement, au roman de chevalerie du Moyen-Âge, en me disant que la vie du père de famille, ça ressemblait un peu ou de la mère de famille d'ailleurs, ça ressemblait un peu à quelque chose comme une cavalcade, une aventure chevaleresque. Par exemple, dans les romans de chevalerie, il y a des duels, mais les naissances, moi je raconte en détail 3 accouchements avec le point de vue de l'homme. Une naissance, c'est comme un duel, un moment un peu suspendu entre la vie et la mort. Donc il y a une sorte de combat incroyable. Donc on peut raconter ça comme un moment épique. Et puis il y a des moments où il y a des dangers qui arrivent et qui menacent les enfants ou la famille. Il faut les repousser, donc ce ne sont pas des dragons. Mais enfin, je parle d'incendie par exemple, donc il y a du feu, d'incendies qui se sont propagés dans l'immeuble. Donc il y a des dangers. Et tout d'un coup, vous pouvez vous mettre à reconstruire une histoire qui semble ordinaire, en disant, mais si je porte un autre regard sur cette histoire, c'est une lutte contre la fatigue, si je vais au bout de mes forces, il y a des dangers à faire reculer, il y a des moments entre la vie et la mort. Si je vais au bout de cette histoire, c'est un roman de chevalerie.
Qu'est-ce qui fait que c'est un roman et pas un récit? Parce que c'est un roman vrai quand même, la plupart des épisodes sont vrais, y compris l'incendie dans l'appartement avec vos enfants, l'incendie dans la cage d'escalier avec vos enfants dans l'appartement.
Ouais.
Qu'est-ce qui fait que c'est un roman? Qu'est-ce qui fait que c'est un récit? Pourquoi vous dites que c'est un roman?
2 choses, la construction. Il y a une construction extrêmement concertée, que je crois romanesque, avec, c'est donc 1-3-5, une première partie avec un enfant, une configuration à 3 enfants, famille recomposée, et une configuration famille nombreuse vraiment à 5 enfants. Donc 1-3-5, ça veut dire que dans un récit chronologique, on serait, ou dans des mémoires, ou dans un journal intime, on aurait un ordre simplement chronologique. Là, il y a vraiment des choix, il y a des coupes qui ont été opérées dans le temps, et dans un roman, on a une manière aussi de faire apparaître les personnages et de les faire disparaître qui est tout à fait particulière. On présente ces personnages, on les fait exister vraiment comme des personnages de fiction, sauf qu'ils sont réels, hein, mais on leur donne un visage, on essaie de révéler leur caractère, ils se révèlent aussi à travers des conversations, et puis on fait très attention aussi à la manière dont les personnages sortent du roman. Quand on met en forme le vécu de manière romanesque, on a des exigences, si vous voulez, de construction narrative qui sont un peu particulières, d'essayer justement de faire une histoire, de faire de la narration, au lieu de simplement retranscrire. Pour moi, le récit ou la chronique, c'est simplement un art de la retranscription du réel.
Vous avez parlé tout à l'heure de l'amor fati, on allait un peu vite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cet amor fati, qui est un concept assez fabuleux, qui aide à vivre même?
Oui, je crois. C'est l'idée. Alors, amor fati, ça signifie l'amour du destin. C'est un concept qui a été énormément promu par un philosophe que j'aime beaucoup, qui est Nietzsche, enfin, qui lui a donné un sens particulier. Lui, il le lie à cette idée de l'éternel retour, mais qui est comme un conte ou une énigme. Il dit, imaginez qu'un démon apparaisse et vous propose de revivre éternellement, une infinité de fois, votre propre vie. Est-ce que vous êtes suffisamment amoureux de votre vie? Est-ce que vous l'aimez assez pour lui dire oui? Donc c'est une question posée, en fait c'est comme un test d'amour de la vie ou d'optimisme absolu, hein. L'amour fati c'est ça, et ce que je trouve intéressant dans cette notion-là, c'est qu'elle nous permet de justement d'élever à un plan presque métaphysique la vie avec tout ce qu'elle comporte. Parce que l'amour fati c'est dire oui à la répétition de tout, même des couches à changer, même des réveils la nuit, même des biberons, c'est que tout va se répéter, vous l'acceptez comme tel. Mais Nietzsche, vous savez, c'est l'enthousiasme devant la vie, Nietzsche a dit « quoi qu'il nous arrive, tout tourne toujours à notre avantage ». C'est délirant d'optimisme de dire ça. Quoi qu'il nous arrive, tout tourne toujours systématiquement à notre avantage. Ben c'est cette position dans la vie qui consiste à ne pas chercher le merveilleux ailleurs que dans les moments qui tissent nos jours.
Et alors, il y a des choses dans le roman, effectivement, qui tournent à votre avantage sans que vous les ayez forcément demandé. Il y a la question de l'argent, notamment, qui est assez passionnante. Au début, vous vivotez en écrivant des livres, vous participez à des revues très prestigieuses, mais bénévolement parfois. Mais à partir du moment où vous avez un enfant, c'est terminé, ça. Vous essayez d'échapper à cette précarité.
Alors, pas tout à fait. Toute la partie 1 raconte une période sur 3 années où on vit à Avignon avec la mère de mon fils aîné. On tire le diable par la queue. On n'a pas vraiment de profession fixe. J'écris des livres, quelques piges. Enfin, bon, à 3, avec l'enfant, une fois le loyer payé, il nous reste à l'époque 500 euros. Bon, c'est juste. On est, d'après les chiffres, sous le seuil de pauvreté. Mais en même temps, c'est une condition qu'on a choisie. On ne peut pas se plaindre. Et puis, on est jeune. Et en fait, un jour, j'ai eu, et je le raconte dans le roman, j'ai eu une sorte de choc, c'est-à-dire que je me suis aperçu au square que notre fils, il avait 2 ans, 2 ans et demi, il portait une combinaison de pyjama et qu'en fait, on ne lui avait pas acheté de vêtements. En fait, c'est-à-dire qu'on lui mettait ses combinaisons de pyjama, elles ne sont pas très chères, elles sont pratiques, on lui en mettait une par jour, il fait beau, à Avignon, il fait chaud, puis on lui mettait des chaussons, un petit manteau. Et donc, on la lavait une fois toutes les 24 heures, on en avait 2. Et là, je me suis rendu compte que les autres, ils avaient des chaussures, des pulls, des chemises, des moufles. Et je me suis dit, mais mince, j'ai pas d'argent. Même si je voulais demain qu'il soit vêtu comme les autres, j'ai pas l'argent. Et là, je me suis dit, bon, effectivement, il faut que je trouve un moyen. En fait, je dirais qu'on sort un peu de l'insouciance de la jeunesse, parce que pour soi-même, on peut accepter toutes sortes de privations. Dès qu'on commence à avoir des enfants, il faut qu'on trouve un moyen de gagner sa vie. Ouais.
Restez avec nous, Alexandre Lacroix. On retrouve vos enfants dans un instant.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.
Luc, je suis ton père.
De retour dans La Voix est libre avec Dark Vador, mais surtout Alexandre Lacroix, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, et son nouveau livre « Naissance d'un père » chez Alary. D'ailleurs, il y a eu toute une dimension philosophique dans Star Wars. Ça a été fait plusieurs fois. Je pense à Gilles Verviche, notamment, qui a écrit des livres sur la philosophie dans Star Wars. Mais ce rapport au père dans Star Wars, c'est très très intéressant, ça.
Très intéressant, effectivement. Le Star Wars, c'est un space opéra qui tourne autour disons, d'une saga familiale, enfin, de la famille Skywalker. C'est en fait un débat interne en famille élargi aux dimensions du cosmos, avec toute cette question extrêmement intéressante du personnage qui tient tout, Dark Vador, évidemment, mais Anakin Skywalker, qui est le personnage ambivalent par excellence, à la fois du côté du bien et du mal. Donc c'est le père... C'est peut-être le père d'aujourd'hui, ni un modèle du bien, ni un modèle du mal, mais quelque chose qui est un peu entre les deux.
Avec le fils qui a honte de son père, et puis qui ensuite, voilà, c'est assez magnifique aussi pour ça, et comme votre roman, c'est un peu les mêmes idées, de toute manière, c'est analyser cette relation d'un père avec ses enfants. Vous racontez votre itinéraire de père, du premier enfant au cinquième. Alors, c'est un roman, un récit littéraire, avec parfois des observations incroyablement pertinente. On reconnaît un peu le directeur de la rédaction de Philosophie Magazine. Par exemple, vous demandez à un moment pourquoi vos enfants vous sautent dans les bras quand vous rentrez le soir. Pourquoi ils vous sautent dessus littéralement? Alors par amour, évidemment, mais aussi, dites-vous, parce que les parents qui rentrent représentent une parcelle de la trépidation du monde. Je n'avais jamais vu ça comme ça.
Oui, en fait, quand les enfants sont petits, qu'ils sont gardés à la maison, ce qui était leur cas quand ils étaient très jeunes, ils sont un peu en vase clos, surtout en hiver, je veux dire. En hiver, à Paris, il fait un peu froid, on sort peu, les enfants sont calfeutrés. Et donc, à la fois, ils vont considérer que l'appartement est un lieu d'exploration. En fait, ils sont tous des poètes, un peu comme Francis Ponge. Les moindres objets ressortent, la plante verte, le marron qu'on a ramassé au square, le caillou, les jouets. Tout ça compose un univers extrêmement dense et intéressant. Et c'est beau de voir cet univers avec leur regard. Mais en même temps, il y a un peu de claustration. Et quand l'un des deux parents revient du dehors où il a travaillé, tout d'un coup, il ramène le monde extérieur. Et donc, on se jette dans ses bras, à mon avis, évidemment, par amour et par joie de le retrouver, mais parce qu'on veut aussi attraper quelque chose de cette énergie qu'il y a dehors, compressant, mais qu'on connaît mal quand on est enfant. On a toutes sortes de fantasmes sur ce qu'il y a au-delà des murs.
C'est une bonne nouvelle ou pas? Parce que moi, j'étais persuadé que c'était uniquement par une sorte d'amour comme ça, inconditionnel, de joie intense.
Moi, je trouve que la question du rapport au monde est très présente dans la relation qu'on a avec les enfants. Une image que je donne aussi, ou que je développe, c'est que j'ai l'impression que les enfants, surtout quand ils sont petits, ils nous rendent le monde une deuxième fois. Pourquoi? Parce que notre regard d'adulte est un peu blasé, puis nous, on a beaucoup de soucis professionnels, on veut atteindre des buts, des objectifs. Et en fait, si on se promène avec un enfant de 2-3 ans dans la rue, tout d'un coup, il remarque tout, la bouche d'égout, le petit rouleau de serpillière qui est dans le caniveau, la fleur, si on est à la campagne, les oiseaux. Par exemple, les enfants remarquent tous, sans exception, les avions et les hélicoptères dans le ciel, alors que vous ne les voyez plus. Et donc, j'ai l'impression que se promener avec des enfants ou être attentif au regard qu'ils portent sur les choses et les objets, c'est redécouvrir le monde, c'est la joie de la redécouverte. Et c'est assez extraordinaire. Donc, on a les enfants, mais les enfants sont une voie d'accès à ce qui nous entoure.
Tout y passe, de l'accouchement, l'allaitement, l'école, mais aussi la socialisation d'un parent. Les amis s'éloignent, en particulier les célibataires sans enfants. Au passage, je me suis rendu compte qu'il n'existe pas de mot pour désigner quelqu'un sans enfant. On est d'accord ?
Nulle part.
Nulle part, ça s'appelle ?
Ouais, quelqu'un qui est nulle part.
C'est assez peu utilisé.
Ouais.
Pourquoi ? Il y a une sorte de blocage là-dessus. Ça ne se dit pas, ça n'existe pas, quelqu'un sans enfant. C'est mal vu socialement.
Je ne sais pas, j'ai l'impression que si on veut parler d'une courbe de Gauss ou d'une norme ou d'une sorte de pression, elle doit tourner quelque part vers la famille, ce que j'appelle moi la famille reproductive, c'est-à-dire deux parents, deux enfants. Parce que deux parents, deux enfants, c'est parfait, c'est un carré. Tous les voitures sont faites pour ça, les tables sont faites pour ça, les meubles sont faits pour eux, sont faits pour ça. On a l'impression que le monde va perdurer, on assure la persistance du monde, la conservation de l'espèce. Mais on ne fait pas moins et on ne fait pas mieux.
Il y a un peu de jugement social quand même sur
les
gens.
Oui, moi je me méfie
enfants.
De ce jugement social et d'ailleurs j'aimerais pas que mon livre soit lu comme un plaidoyer pour les familles nombreuses ou pour avoir beaucoup d'enfants. Moi je suis complètement libéral en matière de mœurs, c'est-à-dire chacun fait exactement comme il veut. Pour moi ça a été important, pour des raisons qui tiennent à mon parcours, au deuil de mon père, à mon rapport à la vie et à la transmission. Ça a été extrêmement important d'avoir des enfants, mais je n'en fais pas une vertu et encore moins une leçon de morale à destination des autres. Chacun fait comme il veut. Ce qui est sûr, c'est que quand on sort du contexte de la famille reproductive, qu'on a 0 enfant ou qu'on en a 5, on est hors cadre. Par exemple, 5 enfants, on ne peut pas... vous avez des amis, tiens, on va venir vous voir, venez nous chercher à la gare. Mais ils peuvent pas, il n'y a pas de place dans la voiture.
C'est le problème de la meute, parce que vous l'appelez comme ça au bout d'un moment, votre famille, la meute.
Oui, on entre dans un restaurant, il faut déplacer des tables et des chaises. On ne peut pas s'asseoir à 6. On est déjà à la limite du tolérable en cette période de Covid-19. Vous voyez, 6. On est 6 à table, quoi qu'il arrive.
Oui, mais les enfants ne comptent pas.
Ce que je veux dire, c'est que les objets de la vie courante, les places, les banquettes dans le métro ne sont pas faites pour 6. Donc en fait, vous voyez, il y a une espèce de société qui a normé. On a une impulsion, une injonction à faire une famille reproductive avec une marge de tolérance jusqu'à 3. Bon, moi je pense qu'il faut se dégager du poids de ces contraintes morales ou pseudo-morales ou sociales.
Justement, il y a des paradoxes et des douleurs aussi et des problèmes dans ce roman. C'est pas du tout un roman pour dire c'est génial tout le temps, bah, parfait d'avoir des enfants, hein, évidemment. Mais ce que vous dites aussi dans votre livre, c'est que vous êtes un solitaire contrarié, puisque vous êtes solitaire, vous écrivez, vous avez besoin de solitude pour écrire et pourtant vous vivez en meute. Comment est-ce que vous résolvez ça ?
Alors, moi, à la naissance de ma fille, donc de mon troisième enfant, j'ai perdu la possibilité d'avoir une pièce de travail. Donc depuis plus de 10 ans maintenant, j'écris la nuit ou très tôt le matin, quand les autres dorment. Donc j'essaye de ne pas imposer à mes enfants mon écriture. Ça signifie que je prends sur le sommeil, j'attends 10 heures, parfois moins, parfois plus, mais enfin, qu'ils soient couchés pour reprendre mes manuscrits en cours. Et j'écris sur la table de la cuisine, après avoir passé l'éponge, voilà, et souvent la toile cirée est un peu humide. Donc ça aurait peut-être un aspect désespérant pour quelqu'un qui voit la mission de l'écrivain comme le fait de s'enfermer dans la tour d'ivoire. Mais il y a quelque chose d'assez beau. Et moi, j'aime bien un texte pas très connu d'un écrivain russe qui s'appelle Vassili Rozanov, qui s'appelle Les feuilles tombées. Et dans ce texte, qui est un peu un petit chef-d'œuvre quoi, du début du XXe siècle, il dit qu'en fait, il faut renverser toute la tradition de l'idéalisme et que les intellectuels, les philosophes, les écrivains ont été trop idéalistes parce qu'ils écrivaient en bibliothèque ou dans un bureau. Et si on veut être un vrai matérialiste conséquent, il faut écrire dans la cuisine, près du feu, là où il y a des odeurs de cuisine, là où il y a des restes dans la casserole, là où il y a des enfants qui sont là, qui font du bruit. Et je trouve ça intéressant comme proposition existentielle, remettre en contact l'écriture, l'intellectualité, la philosophie, la littérature, avec en fait le cœur battant du foyer qu'est la cuisine.
Alors, il y a des douleurs aussi, hein. Je l'ai dit, vous parlez notamment de la séparation, de la réaction de Bastien quand vous vous séparez avec sa mère. Bastien, c'est votre aîné. Il n'y a pas de miracle, hein. C'est de toute façon un drame.
Oui, voilà. Mon livre n'est pas une sorte de plaidoyer pour la famille nombreuse tradie. Hein. Vous voyez, Moi, je suis dans une configuration de famille recomposée, donc je me suis séparé effectivement de la compagne avec qui j'ai eu un premier enfant. Et cette séparation, même si on est de bonne volonté, si on est ouvert, intelligent, etc., on ne peut pas faire l'économie d'une forme de souffrance. À la fois
là, c'est carrément poignant, quoi. On a envie de... On a envie de le prendre dans ses bras, le petit Bastien.
Oui, quand il réalise que les parents ne reviendront plus ensemble, que ses parents ne reviendront plus ensemble, il y a un moment, une crise de larmes que je raconte. Mais c'est très dur aussi pour les parents. Enfin, il y a une souffrance. C'est comme les deuils. On ne peut pas faire l'économie. On ne peut pas se dire, tiens, je vais bien me comporter, je vais pas pleurer, je vais pas désespérer.
Mais ça, c'est intéressant parce que chez les parents, chez les adultes, dites-vous, il y a une sorte de silence un peu obligatoire dans ces circonstances. Et chez vous en particulier, il y a même une dissociation que vous vivez. Oui. Quand les deux familles sont mélangées, c'est-à-dire quand Bastien vient avec vos autres enfants dans votre nouveau foyer. Et là, vous ne savez plus vraiment qui vous êtes.
Ouais, j'ai essayé de mettre des mots sur des expériences qui sont peu racontées en littérature, voire jamais racontées en littérature. Et parmi ces expériences, il y a effectivement par exemple les accouchements, bon, que les hommes racontent peu dans leurs romans. Mais il y a aussi une chose qu'on ne dit pas, on masque les difficultés de la famille recomposée sous une espèce de volontarisme. On va tous être ouverts, sympathiques, et ça va bien se passer. Et ce qu'on cache, à mon sens, c'est ce que j'appelle la dissociation, et que je raconte dans quelques scènes, qui est que quand on est parent et qu'on a des enfants des deux unions, et que les enfants sont là le week-end, par exemple, pour passer le week-end ou les vacances, bon, de la première union, en fait, on est un peu dissocié, parce que on doit continuer son rôle pleinement avec les enfants de la nouvelle union, c'est-à-dire être présent, et surtout ils sont plus petits, donc ils vont demander des soins constants. Et en même temps, celui ou ceux qui viennent de l'ancienne union, ils se sentent un peu comme des pièces rapportées, et si on commence un jeu avec eux, une bataille navale, une partie de cartes, on va être interrompu par les petits, donc on est dissocié. On voudrait être là pleinement pour les uns et pour les autres, sachant qu'ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas les mêmes besoins, et on en perd ses repères, ça crée une très grande tension nerveuse et psychologique, et ça c'est difficile à vivre, mais évidemment, on doit donner le primat, on parle beaucoup de la souffrance des enfants, mais on parle peu de la souffrance des beaux-parents, évidemment, mais aussi des parents qui ont des enfants des deux unions.
Alors, évidemment, il y a aussi, et c'est ça ce qui est merveilleux, c'est la poésie des enfants, ce qu'on appelle aussi la mignonnerie, parfois, ce qui peut aller avec. Et il y a notamment une scène dans votre roman où vous êtes parti à Lyon pour le travail, et sur le chemin du retour, votre femme vous appelle, votre dernier veut vous parler, veut savoir comment vous allez, donc vous lui parlez, vous lui dites que ça va, bon, que vous rentrez justement, que vous allez prendre le train, et la mère, sa mère reprend le téléphone en vous expliquant que oui, effectivement, il voulait savoir si vous y alliez bien, parce qu'elle lui avait dit que vous étiez parti à Lyon, et que du coup, toute la journée, il a eu peur que vous soyez mangé par un lion.
Oui.
Mais alors, dans ces mignonneries, il y a quand même une poésie incroyable.
Dans le langage.
On le sait, mais ça compte aussi au quotidien, ça.
Beaucoup de poésie et puis beaucoup de jeux sur les mots. Parce que notre langage, en fait, on parle aux enfants, mais lion, bah, c'est un lion. Je suis allé voir un lion, quoi. Le langage, il est amusant. J'ai joué aussi dans une scène avec le quiproquo. C'est que les enfants disent toi pour moi. Puisque quand on s'adresse, on dit tiens, c'est à toi. Donc toi veux ci, toi veux ça. Mais non, mais toi, c'est toi pour moi. Toi, tu es un moi pour toi, mais pour moi, tu es un toi. Et donc, c'est rigolo, parce qu'on essaye de leur enseigner les pronoms, et ça donne des choses très, très, très jolies. Il y a beaucoup d'inventivité au moment de l'acquisition du langage, en fait.
Et qui donne à réfléchir, y compris les adultes.
Oui, et puis pour l'écriture, c'est génial, parce que c'est-à-dire que cette acquisition du langage est tout simplement une mise en question de la place des mots dans notre vie.
Merci Alexandre Lacroix. Naissance d'un père, c'est votre nouveau roman et vous restez avec nous dans un instant. Le livre culte, une histoire de transmission aussi, tiens. Et au milieu coule une rivière, c'est un roman avant d'être un film. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
La Voix est libre continue toujours avec Alexandre Lacroix et son nouveau roman Naissance d'un père. Il est l'heure du livre culte. Je vous propose Et au milieu coule une rivière, publié en 1976, traduit en français sous le titre La rivière du sixième jour à l'époque. Pourtant, le titre anglais, c'était And a river runs through it. Ensuite, il y a eu le film et la traduction française a suivi. Et au milieu coule une rivière, c'est comme ça qu'il s'appelle maintenant. C'est une grosse nouvelle en fait, hein, plus qu'un roman. Nous sommes dans le Montana, à Missoula. C'est Norman qui raconte, le fils du pasteur et le frère de Paul. La pêche à la mouche est une religion chez eux et ils sont très forts et la rivière est remplie de truites. Mais bien entendu, il ne s'agit pas d'un guide de pêche ou d'un manuel, même si on en apprend beaucoup sur la question. C'est un roman sur la beauté de la nature, sur la poésie du fil de soie qui s'échappe de la canne, comme ça, là, qui fait... et un roman sur les relations fraternelles et familiales. Écoutez la première page, lue par Philippe Dussault, pêcheur devant l'Éternel.
Dans notre famille, nous ne faisions pas clairement le partage entre la religion et la pêche à la mouche. Nous habitions dans l'ouest du Montana, au confluent des grandes rivières à truites. Et notre père, qui était pasteur presbytérien, était aussi un pêcheur à la mouche qui montait lui-même ses mouches et apprenait aux autres à monter des leurs. Il nous avait expliqué, à mon frère et à moi, que les disciples de Jésus étaient tous des pêcheurs, nous laissant entendre ce dont nous étions intimement persuadés tous les deux, que les meilleurs pêcheurs du lac de Tibériade étaient tous des pêcheurs à la mouche et que Jean, le disciple préféré, pêchait à la mouche sèche. Certes, un jour par semaine était entièrement consacré à la religion, le dimanche. Nous commencions par aller, mon frère Paul et moi, à l'école du dimanche. Ensuite, nous assistions au culte du matin pour entendre notre père faire son sermon. Le soir, nous allions aux réunions de l'aide au prochain, puis au culte du soir pour entendre notre père faire son second sermon. Entre-temps, le dimanche après-midi, nous devions passer une heure à apprendre par cœur le petit catéchisme de Westminster et le réciter à notre père avant de pouvoir l'accompagner sur les collines où il allait se promener pour se détendre entre les deux offices. Il se contentait toujours, en fait, de nous poser la toute première question du catéchisme. Dans quel but l'homme a-t-il été créé ? Pour que l'autre puisse continuer, si l'un de nous deux avait un trou, nous répondions tous les deux en chœur. L'homme a été créé pour glorifier Dieu et jouir de lui éternellement. Cela semblait toujours lui suffire, ce qui se comprend étant donné que c'est une réponse magnifique. Et puis, il avait hâte de se retrouver là-haut pour réparer ses forces spirituelles et faire le plein d'énergie pour le sermon du soir. Sa façon à lui de se regonfler à bloc, c'était de nous réciter des morceaux du sermon qu'il allait faire, agrémentés de tel ou tel passage particulièrement réussi du sermon du matin. N'empêche que, pendant toute notre enfance, notre emploi du temps habituel, à Paul et à moi, comportait à peu près autant d'heures de leçons de pêche à la mouche que d'heures consacrées à toutes les autres disciplines spirituelles réunies.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
C'était la première page de « Et au milieu coule une rivière » de Norman MacLean, lu par le grand pêcheur Philippe Dussault. Nous sommes toujours avec Alexandre Lacroix qui publie « Naissance d'un père » chez Alary Éditions. Vous aimez ces romans contemplatifs de grands espaces, Alexandre Lacroix, et quel est votre roman culte à vous ?
Alors, j'adore les romans de grands espaces, ce qu'on appelle toute la tradition du roman naturaliste américain, qui nous parle de la wilderness. Et alors, mon roman culte dans ce registre, parce que dans l'absolu, c'est tellement vaste, mais dans ce registre, c'est un roman peut-être pas connu à sa juste valeur par le public français, qui est Winter de Rick Bass, qui est un roman autobiographique où il raconte son installation dans une vallée du nord des États-Unis, où il va être coupé de tout pendant l'hiver, dans la neige, et c'est un réapprentissage de la nature et de la vie. Magnifique.
Et votre roman culte dans l'absolu, du monde entier, celui que vous emmenez sur l'île déserte ?
Lumière d'août de Faulkner.
Ah oui, pourquoi ?
Faulkner et Dostoïevski, c'est un peu mes deux écrivains préférés. Donc il fallait que ce soit l'un des deux. Et Lumière d'août, c'est le plus accompli. Non, si, pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que Faulkner l'a écrit dans un état de transe en 6 mois, alors qu'il venait de perdre sa petite fille qui s'appelait Alabama. Et le livre, de manière tout à fait codifiée et souterraine, mais seulement pour ceux qui le connaissent bien, raconte l'histoire du deuil de son propre enfant.
Merci Alexandre Lacroix. Dans un instant, on part chez Antoine Duléry visiter sa bibliothèque et ses livres cultes.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
La Voix est libre continue, nouvelle page. On sort un peu du studio à la rencontre d'Antoine Duléry, le comédien qui publie Imite acteur au Cherche Midi, un livre sur son itinéraire. J'ai profité de l'occasion pour visiter sa bibliothèque. Allons-y. Bonjour Antoine Duléry.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir chez vous.
Mais je suis ravi.
Dans
ravi
votre petite maison, pas très loin de Paris.
Oui, exactement.
Très jolie petite maison.
C'est gentil.
Ça fait un peu San Francisco, je trouve, les maisons très hautes comme ça, toutes petites.
Oui.
Avec le jardin, un tout petit jardinet au bout.
Mais c'est très dense. Alors, je ne suis jamais allé à San Francisco, mais ça me fait plaisir ce que vous dites, parce que j'ai vu ça effectivement dans les films qui ont été tournés à San Francisco.
Oui, la fête à la maison, tout ça.
La tête à la maison, bien sûr. Ou alors, comment s'appelle ce film magnifique, Vertigo.
Vertigo.
Vertigo, voilà.
Bullitt.
Bullitt, le meilleur. Et puis évidemment, comment dirais-je, Le feuilleton qui s'appelait les merdes, les flics de San Francisco avec Michael Douglas, comment ça s'appelait ça? Enfin bref, bon, on n'est pas là pour parler de ça.
Bah, on va parler de cinéma forcément.
J'espère.
Un peu, parce que là, on est devant votre bibliothèque et il y a déjà beaucoup de cinéma. Alors pas seulement dans les livres, il y a des photos. Il y a évidemment Jean-Paul Belmondo un peu partout.
Ouais, parce que c'était mon idole et c'est devenu mon ami. Donc j'ai eu cette chance de rencontrer. Quand j'étais tout petit, bah, je voulais, comme métier, je voulais faire Belmondo, quoi, 14-15 ans, sur l'île de Bréa. Et puis après, bah, mon père, ce héros, m'a dit, il faut que tu fasses du théâtre, ce qui me faisait très peur, mais j'en ai fait. J'ai fait des petits, des moyens, etc. Puis un jour, j'ai eu la chance de rencontrer Jean-Paul sur Les Misérables, Claude Lelouch, et on est devenu, enfin, il m'a donné son amitié. Et ça fait 25 ans maintenant qu'on est très amis, et j'en suis très fier, parce que je suis vraiment... si on m'avait dit ça il y a 40 ans, je ne l'aurais pas cru, d'avoir cette amitié avec ce grand monsieur qui est quand même la dernière légende du cinéma et qui est un homme extrêmement simple et gentil. Donc je suis content que voilà, il m'accompagne sur ma bibliothèque. Il y a plein de photos de lui qui sont surtout des moments de vie au restaurant. C'est pas des photos de cinéma.
Comment
c'est des photos de vie, de copains.
On est quand même là pour les livres et donc là on est dans votre salon. À côté de la cheminée, il y a une grande bibliothèque. Il y en a une sur le mur d'en face, mais commençons par celle-ci. J'ai un peu de mal parce que bon, j'en ai visité des bibliothèques et c'est souvent comme ça. C'est-à-dire que je ne peux pas dire où sont les romans, où sont les beaux livres, etc. Tout est un peu mélangé. Ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un rangement particulier que vous seul connaissez?
Non, mais par contre, j'ai une grande mémoire visuelle de là où sont les livres. C'est-à-dire que je les retrouve instinctivement alors qu'il n'y a aucun rangement et que je suis d'un bordélique épouvantable.
Ça fait, ce qui ça énerve fait bien ma ranger, femme. Hein, mais bon.
Ouais, j'ai fait un effort, mais c'est quand même très souvent très vite dérangé. Comme disait Paul Claudel, le désordre est le délice de l'imagination. Mais moi, je suis très, 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 très bordélique. Mais par contre, c'est vrai que j'ai une mémoire visuelle. Et si on me demande un bouquin, plop, a priori, je le cueille tout de suite.
Alors moi, j'ai un peu l'habitude maintenant et j'ai réussi à faire quelques liens un peu partout dans la bibliothèque. Dans le désordre, il y a du Simenon.
Beaucoup.
Pourquoi? C'est quoi votre lien avec Simenon? Tiens, il y a Jean-Paul qui tombe.
Jean-Paul est tombé. Alors, Simenon, j'en ai énormément. Je pense que c'est mon auteur favori. Alors, je l'ai rencontré non pas dans Les Maigret, mais avec ses romans purs et durs, qui sont d'ailleurs sans doute ses plus grands. Et après, je l'ai interprété deux fois à la télé dans un magnifique...
Lui-même
Maigret. J'ai interprété... un Simenon. J'ai interprété La mort d'Auguste avec Darroussin et Solo, qui était un très, très joli film. Et je l'ai aussi interprété, enfin, Simenon, dans La boule noire. Et moi, je suis un fan de Simenon pour l'atmosphère. C'est très cinématographique. C'est un immense auteur, évidemment. C'est un monstre. Et puis là, je suis en train d'attaquer Les Maigret, qui sont, comme m'avait dit Chabrol, il y en a aussi qui sont formidables.
Bruno Solo, grand lecteur. On a fait sa bibliothèque aussi.
Je sais. D'ailleurs, il a fait une préface d'un des Maigret que j'ai là, je sais pas où il est parce que j'ai toute la collection.
Ah oui, ils ont tout réédité, toute l'intégrale
chez
Omnibus.
Oui, ça c'est le bordel parce que la suite est en bas. Enfin voilà, je devrais tout mettre ensemble, mais je sais où ils sont. Effectivement, Bruno a fait la préface d'un des ouvrages de Maigret.
C'est vrai que l'atmosphère, ça compte. C'est presque ce qu'il y a de primordial chez un auteur d'ailleurs.
Ah ben oui, moi j'adore. J'aime le style plus que l'histoire. Le style m'intéresse. Alors on dit toujours que de Simenon qu'il n'a pas de style, c'est faux, son absence de style est son style, mais en deux trois mots il vous met une atmosphère. C'est un génie de l'atmosphère, c'est un génie. C'est pour ça qu'il a été si de nombreuses fois adapté au cinéma. Il est très dur à adapter, mais c'est vrai qu'en quelques secondes on a la vie d'un petit homme qui va se transformer. C'est ça que j'adore, c'est que c'est des êtres tout à fait ordinaire, qui brusquement vivent une destinée extraordinaire. C'est ça, Simenon. C'est pas des héros, comme il disait, je vais à la recherche de l'homme nu. Et j'aime l'homme nu. Enfin, n'y voyez aucune...
oui. Hein. Votre préféré ou celui que vous conseillez en général, c'est lequel?
De Simenon. Oh, c'est compliqué.
Pas forcément Maigret, d'ailleurs.
Mais... Non, les Maigret, il y a Maigret... il y a la fuite de Monsieur Monde, qui est formidable. Et il y a la mort de Belle. Et...
Ça raconte quoi, et
deux, trois chambres à Manhattan, je ne sais plus si c'est deux ou trois. Mais tous les romans purs et durs sont merveilleux. Et puis sinon, il y a des Maigret, les vieillards. Enfin, tous les Maigret, il y a une ambiance qui est extraordinaire. C'est plus d'ailleurs finalement pour l'ambiance que pour moi, que pour l'enquête. Mais ouais, La mort de Belle, il y en a beaucoup de romans de Simenon qui sont absolument magnifiques. J'aime bien aussi L'horloger d'Everton, Le Fils, qui est très beau. Enfin, il y en a plein. Tous ceux qui sont là, je les ai lus. Alors pour moi, ils ont quand même tous un intérêt, similaire. Parce que c'est quand même à chaque fois des petits romans mais concis et qui vous emporte dès la première page.
Merci beaucoup Antoine Duléry.
Merci, j'ai pas été trop bavard.
Oh ben non, jamais assez. À bientôt.
Merci de votre accueil. Merci Nicolas.
De retour en studio et je rappelle le titre du livre d'Antoine Duléry, Imitacteur, c'est au Cherche Midi. Pour l'anecdote d'ailleurs, une fois les micros éteints, on sort de la maison avec Olivier Duval, l'ingénieur du son. On passe dans l'entrée devant trois caisses de vin de Chinon en attente d'être placé à la cave. Innocemment, mais vraiment innocemment, je pose une question sur la qualité de ce vin. Résultat, on est reparti avec une bouteille chacun. Sympa. À consommer avec modération, évidemment. Je ne vais pas parler de votre bibliothèque, Alexandre Lacroix, mais j'irai peut-être la visiter un jour si vous acceptez. En revanche, j'aimerais bien que vous nous parliez, c'est l'occasion, de votre école d'écriture qui s'appelle Les Mots. Ouais. Comment on apprend à être écrivain? Est-ce que ça s'apprend d'abord?
Oui, dans tous les arts, il y a une grande dimension de technique. Vous voulez danser, être danseur, il vous faut une prof de danse. Vous voulez apprendre à jouer du piano, il vous faut un prof de piano. Les gens, bizarrement, pensent que parce qu'on a appris à écrire à l'école, c'est bon, on sait, on n'a pas besoin d'apprendre l'écriture créative, l'écriture de romans, l'écriture d'essais. Ben si, ça s'apprend. La technique n'est pas le génie, hein, mais l'école d'écriture, les mots proposent en fait... de suivre des ateliers avec des écrivains qui ont toujours publié au moins deux livres. Des écrivains expérimentés, et on n'y apprend pas une théorie de la littérature, parce que ça, en fac, on le fait très bien, la théorie de la littérature. On y apprend des gestes, en fait, du savoir-faire. Comment on fait un premier jet, comment on corrige ses phrases, comment on améliore un paragraphe, comment on crée une chute pour le paragraphe, comment on rythme un récit. Tout ça, ça a l'air d'être spontané, ça ne l'est pas.
On pourrait vous dire que Dumas, Oscar Wilde, Faulkner, ils n'ont pas fait d'école d'écriture.
Si, tout à fait. Ils ont complètement fait des écoles d'écriture, dans le sens où, pour les premiers, les Français, comme Dumas, il y avait les salons littéraires qui étaient des lieux d'apprentissage de l'écriture. Pour Faulkner, il a eu un mentor, en fait, écrivain, avec qui il a passé toutes ses journées dans sa jeunesse, qui a écrit... Vineyard Ohio, son nom va me revenir, et qui a été son maître et qui lui a transmis. Regardez, dans les parcours d'écrivains, il y a toujours une histoire de transmission. La seule chose, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de revues littéraires. Les revues littéraires servaient à ça. Il n'y a plus de salons littéraires. Les salons littéraires servaient à ça. Et créer une école d'écriture comme Les Mots, c'est peut-être un geste un peu contemporain pour réinventer le lieu d'une transmission.
C'est très courant aux États-Unis, beaucoup moins en France, même si ça arrive, notamment avec votre école. Comment ça se passe? On arrive, on s'assoit et il y a un prof qui nous dit « Bon, maintenant, vous écrivez un roman ?»
Oui, c'est comme un cours d'arts martiaux. C'est comme on vous met en kimono sur le tatami. C'est-à-dire qu'on ne vous explique pas ce qu'il faut faire, on vous demande de le faire. On ne vous met pas au tableau la prise, il faut que vous la fassiez. Donc, à chaque cours, dans un atelier d'écriture, Il y a un exercice d'écriture qui est proposé par l'auteur. Et il faut essayer de le faire. Et donc c'est un défi, et évidemment dans une série de cours, il y a une gradation dans la difficulté. On ne commence pas par la prise la plus difficile, mais donc là, petit à petit, en fait, on acquiert tout un tas de techniques, mais on est vraiment au niveau de la pratique, pas de la théorie. C'est ça qui compte.
Ça coûte cher ?
Ça coûte un peu moins de 20 euros de l'heure.
Ah oui. Et on peut choisir son emploi du temps, ou on s'inscrit dans un programme.
Alors il y a des cours en présentiel, beaucoup de cours à distance avec cette période de confinement, mais il y en avait déjà avant. Et on choisit son auteur, son thème. Et en fait, il y a chaque semaine, il y a du renouvellement. Je ne sais pas, il y a plus de 30-40 cours. Il y a 2500 élèves par an quand même. Il y a plus de 100 écrivains qui enseignent chaque année dans l'école. Donc il y a une gamme d'ateliers très variés qui couvrent tout du polar au roman, au feel good, à la poésie. Moi, j'ai une idée complètement décloisonnée de ce que doit être la littérature et la création.
Des nouvelles?
Beaucoup de nouvelles, oui. Sonia Fairchak a un cours excellent sur la nouvelle qui fonctionne extrêmement bien. Sur l'écriture de soi, Philippe Villain. Mais vous avez énormément
Philippe
de choses.
On l'adore ici.
Mais oui, mais tous ceux que vous adorez, de Yannick Kennel à Toby Nathan, ont tous enseigné.
D'accord.
Mais oui, ils ont tous enseigné dans
Yannick
cette école.
Yannick Kennel. Et c'est à Paris, mais on peut se connecter à distance, c'est ça l'idée alors?
Alors, quand on suit un cours en présentiel, ça a lieu rue Dante, dans le 5e arrondissement. Quand c'est un atelier à distance, c'est un peu différent. La consigne d'écriture proposée par l'écrivain arrive dans votre boîte mail le lundi, et vous avez une semaine pour écrire, et il fait un retour personnalisé sur votre texte. Mais ça convient aussi aux solitaires, du coup.
L'école d'écriture rue Dante, ça s'invente pas quand même. Restez avec nous, Alexandre Lacroix, dans un instant, on part chez les libraires.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
Retour de La Voix est libre, il est l'heure de rendre visite à un libraire pour un conseil. Des conseils, nous partons à Vaucresson, rejoindre Anne Burzinski.
Bonjour Anne Burzynski.
Bonjour Nicolas.
Merci de nous recevoir. Là, il y a plein de monde dans la librairie. Ça va être sans doute l'effet Noël, j'imagine. Mais vous, il y a trois livres en particulier que vous conseillez aux clients. Lesquels ?
Alors, c'est des redécouvertes parce que là, pour le coup, je suis pas allée chercher dans les nouveautés, mais plutôt dans des livres de fond, en fait, de mes étagères que j'ai envie de vous faire découvrir ou redécouvrir.
C'est ce que je préfère.
Et ben alors, allons-y. Donc, pour commencer, j'ai le livre de Chris Nelscott qui s'appelle « La route de tous les dangers ». En fait, c'est une citation de Martin Luther King. Enfin, c'est cette expression qui a donné le titre est issue d'une citation de Martin Luther King. Et justement, le livre se passe à Memphis en 1968, quelques mois avant la mort de Martin Luther King. Et notre personnage principal, c'est un détective privé, très attachant, un petit peu de la débrouille, quoi, en fait, qui va voir arriver dans son cabinet, si on peut appeler ça comme ça, dans son espèce de bureau, à la sauvette. Il va voir
avec la bouteille de whisky et tout.
Alors non, sur ce coup-là, on échappe au moins à ce truc-là, mais il a ce petit côté quand même gentiment folding et gentiment loser quand même, mais vraiment, je l'aime beaucoup. Et donc, il voit arriver cette femme qui est une femme blanche. Alors déjà, dans son quartier, c'est pas super bien perçu. En plus, elle arrive très bien habillée, etc. On sent que c'est une femme riche. Et elle se présente pour lui parler en fait d'un héritage que lui est censé recevoir de cette femme. Et en fait, il se dit, mais je connais pas sa famille, je connais pas cette femme, donc pourquoi est-ce que je suis censée hériter d'eux, en fait ? Il y a quelque chose de très bizarre. Et donc, il va se retrouver à enquêter là-dessus, mais du coup, à enquêter sur lui-même, en fait.
Génial comme idée. Et alors, la couverture est très belle, avec un liseré jaune sur fond noir. La route de tous les dangers, Chris Nelscott, c'est aux éditions L'Aube Noire. Un autre.
Alors, un autre, donc, qui fait partie de mon panthéon. Pour le coup, c'est un des meilleurs livres que j'ai lus. C'est Le jour d'avant de Sorge Chalandon. Vous le connaissez très sûrement pour d'autres titres, peut-être comme Mon traître ou comme Profession du père ou Le quatrième mur. Celui-ci, pour moi, c'est un de ses meilleurs dans la mesure où c'est aussi un des plus accessibles. On peut découvrir Sorge Chalandon par celui-là parce qu'il ne demande aucun effort. C'est dès le début complètement prenant. Il y a toutes les émotions qu'on puisse rechercher dans un livre. Il y a absolument tout, on est happé, il y a de la surprise, on est bouleversé, il y a une vraie intelligence, c'est qu'en fait, c'est à la fois très bien écrit, mais comme si c'était facile. C'est un livre mystérieux, enfin, j'ai adoré. Alors, l'intrigue quand même, c'est on est autour de la catastrophe de Liévin, dans le nord de la France, en 1974. 42 mineurs qui sont pas remontés à cause d'un coup de grisou. Vous vous souvenez sûrement de ce fait divers, malheureusement. Et là, nous, on suit le frère d'un de ces mineurs. Mais le livre ne va pas du tout vous emmener où vous croyez, en fait.
Il faut lire pour savoir. Un petit dernier pour la route.
Ouais.
De tous les dangers.
Bien vu. Alors, du coup, un autre livre de mon panthéon, un indispensable et qui fait du bien, et je pense que voilà, ça ne peut être qu'adapté à ce qu'on vit, c'est Profane, de Jeanne Benhammer, qui est paru aux éditions Actes Sud, que ce soit en poche ou en grand format, c'est chez le même éditeur. Et là, vous suivez Octave, qui a 90 ans, qui est un vieux monsieur, mais ancien chirurgien du cœur, pas du tout grabataire, attention, il n'est pas dépendant, c'est pas déprimant, c'est pas tout ça. Mais ce monsieur-là, il va recruter des personnes pour se relayer chez lui. Certains pour faire la cuisine, d'autres la lecture, etc. Il pourrait le faire tout seul, mais il a juste envie que la vie reprenne, quoi. Il a envie qu'il se passe des choses, il a envie que des gens se rencontrent, qu'il y ait une espèce de petite communauté qui se mette en place. Et donc, c'est à la fois les liens qui vont se tisser entre chacun de ces personnages et entre lui et chacune de ces personnes, en fait. Et c'est très, très beau. Profane, c'est l'idée de retrouver la foi en l'humain avant Dieu, en fait. C'est magnifique.
Profane, au pluriel, de Jeanne Benhammer. Et on récapitule, il y avait les deux autres. Donc, Le jour d'avant, de Sorge Chalandon. Et puis, Chris Nelscott, à l'aube noire, La route de tous les dangers. Merci Anne, merci beaucoup, bonne route.
Merci Nicolas, bonne route également et à très bientôt.
Europe 1.
Retour à Europe 1 et nous sommes rejoints dans un instant par ce grand enfant de Victor Dolande et son conseil littérature jeunesse. A tout de suite.
Il était une fois.
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 Et comme chaque semaine, on retrouve le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Salut Victor.
Salut Nicolas.
Bah aujourd'hui, carrément un événement mondial.
Ah bah oui. Hein, ah
le
oui.
le ouais. grand retour de J.K. Rowling. C'est l'auteur d'Harry Potter, bien sûr.
L'auteur d'Harry Potter qui n'avait plus écrit une ligne en littérature jeunesse, donc depuis Harry Potter et les Reliques de la Mort, le dernier volet de la saga, écrit en 2007 et excepté Harry Potter et l'enfant maudit, une pièce de théâtre qui évoque le futur des enfants sorciers, leurs enfants.
Hors série, quoi.
Et voilà, exactement, hors série. Donc il y a forcément une attente colossale autour de ce livre. Rendez-vous compte, la saga Harry Potter s'est écoulée en librairie à plus de 500 millions d'exemplaires dans 140 pays différents. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs qui aimeraient avoir ces chiffres. Et ce dernier
pas
livre.
Pas loin, Alexandre Lacroix.
Pas loin.
On enlève quelques zéros.
Ouais. Et ce dernier livre qui sort donc aujourd'hui en librairie est intitulé L'Icabog.
Encore une histoire de magie ?
Alors non, pas du tout, disons-le tout de suite pour les fans d'Harry Potter. Il n'y a aucun lien avec la saga des enfants sorciers, pas de magie donc dans l'Icabog, mais un conte de fées très politique. Il était une fois un petit royaume appelé Cornucopia, un pays riche où les habitants ne manquent de rien, où on déguste les pâtisseries les plus raffinées. Le roi Fred traite bien ses sujets, ces derniers sont tous heureux, vivent paisiblement. Sauf au nord, dans le territoire des marécages, là-bas, les hommes n'ont presque rien. Tout le royaume se moque d'eux et surtout cette contrée répugnante abrite l'Icabog, un monstre qui change d'apparence selon les rumeurs et qui dévore les enfants et les moutons. Très vite, ce joli conte va donc prendre des allures politiques. Les inégalités explosent au sein de la Cornucopia et les puissants jouent avec la vérité. Un roman qui n'aurait jamais vu le jour sans le confinement. Edwige Pasquet, présidente des éditions Gallimard Jeunesse.
En fait, J.K. Rowling l'avait écrit pendant qu'elle écrivait Harry Potter. Et elle le racontait tout le soir à ses enfants, et puis l'a relégué dans son grenier. Quand le coronavirus est arrivé, elle a souhaité faire quelque chose pour les enfants. Elle a commencé à re-raconter cette histoire à ses enfants qui avaient grandi, bien sûr. C'est certainement le Covid qui a précipité les choses.
Comme Tolkien, hein, pour Le Seigneur des Anneaux, c'est toujours la même histoire de l'histoire.
Exactement.
À partir de quel âge ?
Alors, on peut lire à partir de 8-9 ans pour les bons lecteurs, 10 ans, on va dire, pour... Les autres lecteurs qui sont un petit peu moins férus de lecture. Un roman de 330 pages où on retrouvera les thèmes favoris de J.K. Rowling. La famille, l'amitié, l'abus de pouvoir et surtout la dénonciation des fake news. Tout au long du roman, on va se demander oui, si l'Icabog existe. Alors bien évidemment, je garde le suspense. Un conte qui renvoie en tout cas étonnamment à certains mots de nos sociétés actuelles, Nicolas.
L'Icabog de J.K. Rowling, J.K. Rowling. C'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Alexandre Lacroix, vous êtes auteur carrément de livres jeunesse aussi. C'est quoi votre rapport à cette littérature-là ?
Ce sont des histoires que j'invente pour les enfants. Et c'est vrai que moi, j'écris pour les premières lectures. En fait, ce qui me fascine en tant que lecteur aussi, ce sont ces albums qu'on lit aux enfants le soir avant de dormir. Les histoires du soir, voilà. Et donc, moi, ce que j'adore... Ce sont les histoires du père Castor, ce sont les histoires de l'école des loisirs. Pour moi, les grands noms, d'ailleurs, je suis un peu vieux jeu, c'est-à-dire j'aime bien les contes avec des personnages très typés, donc Tommy Ungerer, les trois brigands, Flix, Claude Ponty. J'aime bien ces contes, ces albums. Je trouve que c'est merveilleux l'idée qu'on puisse écrire et être le premier contact des enfants avec la fiction.
Souvent un débat avec Victor, on se pose toujours la question de savoir est-ce qu'il y a vraiment une littérature jeunesse ou est-ce qu'on ne devrait pas nommer les choses comme ça et de se dire qu'il y a de la littérature lue par des jeunes ou pas, peu importe. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous ?
Non, ce qui est certain, c'est que quand on écrit pour les 4, 6, 7 ans, ce qui est mon cas, on s'adresse à eux. C'est-à-dire que, mais en fait, l'exigence sur le style, elle est immense. Parce que le vocabulaire doit être plus restreint, il faut aller à l'essentiel. Et puis, c'est un public qui se fout de lire Proust, ce public-là. C'est-à-dire, si ça les embête, ils balancent l'album. Donc, c'est le public le plus exigeant qui existe. Et donc, tout d'un coup, on croit que c'est simple et c'est beaucoup plus compliqué.
Et il n'y a pas une schizophrénie, justement, à écrire pour deux publics différents ? Comment vous faites ?
J'écris très différemment pour les jeunes parce que je mets beaucoup de rimes, beaucoup de sons, parce que j'écris pour être lu. Donc, en fait, la chose qui m'intéresse le plus, ça va être la musique, comment ça sonne pour les enfants, parce que je me dis que si on leur montre que les mots peuvent sonner, on leur montre aussi que le langage écrit, ça peut être une source de plaisir et d'amusement. Voilà.
D'accord.
Et je rappelle donc votre nouveau livre, Alexandre Lacroix, Naissance d'un père, c'est chez Alary Éditions. Merci beaucoup.
Merci.
Et bis à la famille.
Merci.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses. Et merci à Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre. Nicolas Carreau.